France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un écrivain a prétendu que la femme n'existait point en Sardaigne. Plus exactement, il n'existe pas de jalousie, il n'y aurait pas de crime d'honneur. Et à l'opposé de ce que l'on sait des autres pays du Sud, la femme n'y suit pas à pied le mari monté sur sa mule, en route vers les champs, elle prend place sur la charrette. Un matriarcat, la société sarde, et la religion de la femme sarde, pas totalement chrétienne. Une culture agro-pastorale, des paysans qui se sont réfugiés dans le centre de l'île, fuyant les envahisseurs successifs venant de la mer au fil des siècles. Mais il y eut des visiteurs plus paisibles au XIXe siècle, Byron, Balzac, par exemple. Nous étions le 7 février 1984 sur France Culture, la matinée des autres, femmes de Sardaigne.
La matinée des autres. Aujourd'hui, Femmes de Sardaigne. Une émission de Diane Secchi et Maria Manc. Avec la participation des femmes de Sardaigne, Caterina, Pepina, Anna, Bianca. De Maria Giacobbe, Marina Sabba, Rina Pigliaru e de Carlino e Pasquale.
Noi siamo nate povere perché eravamo figlie di pastori, mio padre faceva il pastore, a casa eravamo in 11, 4 sono morti dei fratelli e siamo rimaste in 7.
Nous sommes nés pauvres car mon père était berger. Chez nous, on était 11, mes 4 enfants sont morts et il en est resté 7.
Io quando avevo 7 anni ho iniziato già a fare la madre di famiglia. Mia mamma ha avuto 2 gemelli, però la mattina mi mandava a scuola di mattina e pomeriggio.
À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à faire la mère de famille. Ma mère a eu 2 jumeaux, mais elle a tout fait pour m'envoyer en classe, le matin comme l'après-midi.
Perché quando si era piccole, ai miei tempi si andava 2 volte, la mattina e di pomeriggio. Però la mamma faceva di tutto che io andassi a scuola. Mai che mi abbia detto tu non devi andare perché devi andare a lavare, no. Lei accudiva le faccende, però io quando tornavo a casa, sia a mezzogiorno sia di pomeriggio, vadavo anche i miei fratellini perché ce n'erano altre 3. Allora eravamo già in 5.
Jamais elle ne m'a dit va faire le lavage au lieu d'aller à l'école. Mais le midi et le soir, quand je revenais, je m'occupais de mes petits frères, car on était déjà 5.
Poi man mano si cresceva, si andava a scuola, più scalzi che con le scarpe. A volte la maestra ci buttava via dalla scuola perché eravamo scalze e questo è successo anche a me perché era tempi di...
Brava la maestra!
È bravissima perché lei era una fascista quindi...
À l'école, on y allait plutôt pieds nus qu'avec des chaussures. Quelquefois la maîtresse nous jetait dehors parce que nous n'avions pas de chaussures. Ça m'est arrivé, à moi aussi. C'était au temps du fascisme. Et elle nous voulait tous impeccables.
C'était Caterina, petite écolière dans un village du centre de la Sardaigne, Orgosolo, en 1935. Maria Giacobbe est sarde et elle a écrit un livre, Institutrice en Sardaigne, dans lequel elle décrit les conditions de vie de ses élèves, des petites filles de 9 à 14 ans dans les villages du centre de la Sardaigne dans les années 50. Elle dit, comme Caterina, que ses enfants ont beaucoup de mal à venir à l'école, car elles vont à l'aggiudo, c'est-à-dire en service. Maria Giacobbe, en quoi consistait exactement ce service?
Je préfère commencer par dire que maintenant ce n'est plus comme ça. Mais quand j'enseignais dans ce village, il y avait une misère atroce encore. Et c'était la faim. Alors, cette petite fille allait faire des services. Ces services étaient tout ce dont on a besoin dans une grande maison qui n'a pas l'aspirateur, qui n'a pas la machine à laver, qui n'a rien de ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ces petites filles devaient, par exemple, prendre l'eau à la source, quelques kilomètres loin du village, et devaient nettoyer la maison, les tables, la cour, faire les courses. C'est difficile à décrire. Elles étaient tout le temps en mouvement, tout le temps en travail. Et ce qui était vraiment terrible à voir, c'était qu'elles étaient mal chaussées quand elles étaient chaussées. C'est un village de montagne à 1000 mètres d'altitude où il fait froid, vraiment froid l'hiver.
Dans ces années-là, la condition des femmes qui ont du bien et de celles qui n'en ont pas est très différente, comme on peut le lire dans les rédactions de petites élèves de Fonni qui semblent considérer que le village est véritablement divisé en deux castes.
La femme du paysan travaille continuellement pour devenir riche. Les femmes des riches, au contraire, sont différentes. Elles ne vont pas travailler, puisque même si elles ne vont pas au travail, elles ont de quoi manger. Elles tricotent ou ne font rien. Les fermières vont bêcher, cultiver la terre, semer. Chez les riches, il y a du bois à brûler et du pain. Les riches sont dans l'aisance et font l'aumône aux mendiants. Ils emploient les paysans pour travailler leur terre et les femmes pour cuire le pain d'orge et le blé.
Très tôt, les petites filles quittent l'école et entreprennent différents travaux. Et Caterina, qui évoquait sa vie d'écolière, commence à travailler au champ.
Mi sono fatta grande, ho fatto la quinta elementare. Dopo fatta la quinta elementare, ho iniziato ad andare a cogliere olive, a portare legna sulla testa, a zappare, a mietere il grano. Dormivamo in campagna, dormivamo per terra. Il cuscino era una pietra. Ci davano questi sacchi le mamme che mettevano a raccogliere il grano, però ci occorrevano anche per coricarci noi.
J'ai grandi, j'ai fini l'école primaire et j'ai commencé à ramasser les olives, à porter le bois sur la tête, à travailler au champ, à faire les moissons. On dormait dehors, avec une pierre pour oreiller. Nos mères nous donnaient des sacs pour le blé et on s'en servait aussi pour dormir.
Poi abbiamo cresciuto un pochettino, però così, poi quando noi ci andavamo a zappare, a mietere, allora si facevano gli orti. E andavamo lì in campagna, seminavamo le patate, i fagioli. Poi prima si zappavano due o tre volte, poi andavamo ad innaffiarli d'estate. Partivamo la mattina e rientravamo la sera. Non avevamo l'orologio, c'erano queste, dove andavo io c'era questa pianta di broncospino e noi guardavamo il sole. Poi dovevamo fare il pane.
On faisait aussi les jardins, on semait les pommes de terre et les haricots et on allait les arroser en été. On partait le matin et on ne rentrait que le soir. Comme on n'avait pas de montre pour savoir l'heure, on suivait l'ombre d'un buisson d'aubépine.
Dovevamo fare il pane. Non è come adesso che va lì al mulino, prende la farina, la impasta e il pane si tira fuori. No, prima si faceva il pane d'orzo. Prima l'orzo ci aveva una punta così lunga.
Et puis il fallait faire le pain, et pas du pain blanc comme maintenant. C'était du pain d'orge qui demandait beaucoup de travail. On nettoyait les grains, puis on les triait, on les apportait au moulin pour en faire de la farine, et puis on commençait à pétrir la pâte. Moi, je la mouillais de larmes, tellement je pleurais car j'étais trop petite. Et on restait jusqu'à 2 ou 3 jours à faire ce travail. Et puis on commençait à cuire le pain le soir et tout le jour suivant, pendant 24 heures sans dormir.
solo che eravamo fortunate, perché il giorno che si faceva saotta, si diceva, del pane d'orzo, allora ci facevano a pranzo i maccheroni, perché altrimenti i maccheroni non è come adesso che si buttano anche i maiali, ma prima si facevano proprio in questi giorni distinti.
Mais la récompense des jours de cuisson, saotta, comme on les appelait, c'était les maccheroni. Et ce n'était pas comme maintenant, où on les donne aux cochons.
Nous andavamo al fiume à lavare la mattina, et andavamo anche in tre o quattro, anche le vicine di casa. E si andava lontano, perché i fiumi, magari c'erano posti che l'acqua era, non lo so, splendida, in certi posti invece non era bella l'acqua. Poi si andava d'inverno in un posto, d'estate si andava ancora più lontano.
Nous allions au fleuve, laver le linge, entre voisines, et il fallait aller loin pour trouver de l'eau propre, surtout l'été. On portait le linge dans des paniers sur la tête, et on portait aussi un chaudron de cuivre. Une fois arrivé au fleuve, on faisait un feu, et comme lessive, on se servait de la cendre qu'on avait dû transporter depuis le village. Pendant que quelques-unes lavaient, les autres alimentaient le feu. On en profitait aussi pour se laver les cheveux, car en ce temps-là, il n'y avait que du savon fait avec du lait caillé. Et de toute la journée, on ne mangeait qu'un morceau de pain et de fromage.
Altrimenti si faceva tardi. E a volte si riusciva ad asciugarla la roba. A volte si rientrava in paese con queste ceste di roba anche umida perché non si faceva in tempo.
Aujourd'hui, ça ne va certes pas mieux qu'avant. On ramasse bien 4 paniers d'olives, mais il y en a 2 pour le maître. Jadis, quand on se louait, on gagnait encore moins, mais la vie était moins chère qu'à présent.
Et le blé? Voilà des années qu'on nous le paie toujours le même prix. Seulement le pain, il a augmenté 4 fois de suite. C'est bien pour ça que les campagnes se vident.
C'est bien pourquoi, moi, mon pain, je préfère le faire moi-même. Le blé, on en produit suffisamment pour nos besoins. Je le moue moi-même. Au moins, on sait ce qu'on mange. Le pain des boutiques a mal levé, il n'a pas assez cuit, la farine est pleine de saleté. Il faut qu'il gagne, même sur la santé des gens.
Ça allait mieux quand on était jeune. Moi, quand j'ai marié mon homme, et tant qu'il a été en vie, il y avait les enfants à la maison. Pourtant, on faisait tout nous-mêmes. On faisait le pain, mais aussi l'huile, le vin, la conserve de tomates et le fromage. De plus, nos propres tissages. Et c'est ma mère qui confectionnait les robes et les tricots.
Mais aujourd'hui, on est bien obligé de tout acheter. Il n'y a plus de jeunes. Et nous, on ne peut plus faire tout marcher nous-mêmes.
D'accord. Seulement, autrefois aussi, il y avait toujours ces sacrés patrons pour nous commander comme si on était des bêtes.
Et le ventre creux. On allait en journée pour moins d'un kilo de pain, une ou deux assiettées de soupe, quelques poires et un bout de fromage au gré du patron. N'empêche que, pour leurs bêtes, il y avait toujours des fèves et de la paille. Pâté ou fourrage, ils ne laissaient pas manquer. Tandis que nous...
De plus, rappelez-vous les mauvais tours de nos supérieurs qu'il nous fallait endurer continuellement. Les patrons et leurs enfants qui avaient recours à tous les prétextes possibles pour nous prendre au piège. Et il y avait des filles qui n'avaient pas le courage de se révolter par peur du scandale. Rappelez-vous, les lascars comme Don Juan. Que les flammes de l'enfer se le tiennent à présent qu'il est crevé. Rappelez-vous sa façon de provoquer même les femmes mariées et de les brouiller avec leurs propres conjoints. Une fois, mon mari est allé jusqu'à lever la main sur moi pour ce que je dis.
Oh, et pourquoi que ton mari n'a pas tapé sur Don Juan lui-même? Qui méritait bien d'être corrigé. Est-ce qu'il n'avait pas assez de couilles pour le faire ?
Eh, des couilles, mon homme en avait bien. Mais on ne pouvait pas risquer de perdre notre ouvrage. Il aimait mieux me reprocher de trop blaguer avec les garçons au cours de notre travail en commun. Mais moi, je ne le faisais pas du tout exprès.
Moi, je n'aurais pas permis que mon homme me frappe. Il a bien essayé une fois. Il avait pris jalousie d'un gamin que moi, je ne regardais même pas. Mais il l'a payé cher ce jour-là. J'ai attrapé ma broche avec le bout de saucisse qui était accroché, je l'ai coursé dans la maison jusqu'au bout du couloir et j'allais lui foutre dans les entrailles quand il me lance « Gâte pas la saucisse, elle est de première !» J'en ai tellement ri que j'ai pardonné.
Mais s'il n'y avait pas eu les patrons et leur Véra mandataire, nous, hommes et femmes réunis dans le boulot, ça marchait bien. Rappelez-vous, le temps du sarclage. Oh. Un garçon et une fille, côte à côte, tout comme un couple. En ce temps-là, c'était pas comme à présent, où les fiancés se fréquentent autant et comme ils veulent. Mine de rien, grâce au travail de la houe, on pouvait se mettre auprès du gars auquel on tenait. C'était le temps des amours. On se parlait, on chantait, et au milieu du bléau, personne n'aurait pu voir les mains qui se joignaient pour arracher la même ivraie. Une ivraie qu'on n'en finissait plus d'arracher. Ah, si l'un ou l'autre allait trop loin, en œuvrant carrément de ses mains, ou au contraire, il mettait trop de retenue vu sa timidité, ça se baillanas, les filles, en âge de se marier, s'assemblaient et trouvaient moyen d'épancher leur chaleur. Le moment venu de la pause, accordée par le métayer, on coursait l'un ou l'autre garçon et on l'acculait, on le déboutonnait devant tout le monde, on lui sortait sa piquiriola, on crachait dessus et on la barbouillait de terre pour le laisser ensuite là, au milieu de l'hilarité générale. Il y en avait pour qui c'était la première fois qu'elle voyait le machin. C'était comme si elle faisait l'amour en présence de tout le monde, de leurs parents même, qui se tordaient.
Mais oui! Une fois, on l'a même fait à mon mari, un jour j'étais pas là. Comme toujours, il y allait de ses mains et il avait agacé un peu trop une de ses filles à marier. Alors, elle s'y met à cinq pour l'acculer contre un arbre et comme elle commence à lui dénouer sa ceinture, lui, madré comme il est, il se met à crier « Laissez-moi tranquille ou alors je vous sors moi-même ma petite bête !» De quoi les démonter complètement. Aussi le lâche-t-elle pour en courser un autre qui était moins culotté. Des choses comme ça, il arrivait même qu'on les fasse au patron. Les filles ne respectaient point les vieux quand ceux-ci méritaient une correction. Il n'y avait pas de maître qui tienne. Les femmes avaient le dessus sur les hommes, patron ou pas.
De beaux souvenirs. Seulement, aujourd'hui, nos jeunes y sont dans des contrées étrangères. Nous, nous sommes des vieilles, il faut nous contenter de ce qui nous reste. Notre vie est passée. Et maintenant, on a ramassé ces olives. Rien qu'en métayage. Et c'est encore une chance qu'on garde la santé.
Mais revenons à Caterina, qui, en plus de tous ses travaux, commence dès l'âge de 11 ans à préparer son trousseau.
Quando non c'era questo lavoro da fare, allora ci mettevano a ricamare. Perché si iniziava a fare il costume.
Il costume per che cosa?
Il costume per quando si sposava una. Il costume sardo.
Quand il n'y avait pas tous ses travaux à faire, alors on se mettait à broder. Car on commençait à faire notre costume. Le costume pour notre mariage. Le costume sarde.
En ce qui concerne le trousseau qui constituait la dot de la jeune fille, Luca Pina, sociologue, écrit
« Les jeunes filles doivent apporter leur trousseau, la dot n'ayant jamais été en usage en Sardaigne. Et pour ce faire, elles le préparent souvent dès leur enfance, ou encore vont travailler comme domestiques à Nuoro, Cagliari et même sur le continent. L'habitude qui veut que les jeunes filles commencent à préparer leur trousseau dès leur adolescence peut s'expliquer pour des raisons économiques. En effet, la dépense peut s'étaler sur plusieurs années et est donc plus facile à supporter. Mais il ne faut pas oublier que la jeune fille, depuis son adolescence, pensera à elle en termes d'épouse et de mère, puisque le trousseau comprend aussi la layette du nouveau-né. Cette coutume peut aussi avoir une autre fonction, car la préparation du trousseau peut, d'une certaine façon, habituer la fille au caractère inéluctable du mariage.
Andrea et Anna Maria vivent maintenant en France, mais ils sont sardes et se sont fiancés et mariés en Sardaigne juste après la guerre. Comment se passaient les fiançailles et le mariage à cette époque, Andrea et Anna Maria?
C'était pas comme maintenant qu'il faut parler directement à la fille ou l'envoyer par lettre. Il faudrait envoyer une troisième personne en disant là, il demande à la jeune fille, par exemple, s'il accepte, par exemple, le mariage, avec moi. Lui, Il allait là-bas, il demandait la fille, et la fille, à ce moment-là, il donnait une réponse, oui ou non. Cette réponse-là, la troisième personne, c'est-à-dire le paralyme, il l'a donnée à moi. Si c'était oui, automatiquement, toujours le contact, c'était entre le paralyme et moi.
Oui, mais la jeune fille, il y avait le temps aussi de réfléchir.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'il ne donnait pas lui tout de suite.
D'accord.
Des fois, il restait un mois et des fois, il restait même plus. À ce moment-là, c'était les parents le plus qui faisaient les mariages. Parce que là, ce n'était pas entre fiancés, c'est plutôt les parents qui faisaient les mariages. Ce n'était pas bien. Pas bien du tout. Parce que, ou soit les riches pour garder un petit peu le bien en trop, ou soit les pauvres aussi pour mieux sécurité, c'était les parents qui faisaient un peu le mariage de leurs enfants. Mais maintenant, c'est plus pareil.
Quand que la jeune fille, là, il lui disait oui, qui acceptait à la demande qu'il faisait le jeune homme, alors à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en patois, il se disait à foule. Et il cherchait de s'y voir là en cachette. Si quelqu'un, par exemple, il savait que ces deux-là se fréquentaient, vous voyez, il y avait quelque chose qui se doutait. Alors, pour découvrir la chose, il y avait quelqu'un qui prenait un sac de paille, qui partait dans la maison de l'homme, il faisait un sentier de paille.
De la maison du jeune homme jusqu'à la maison de la jeune fille.
Faisait un sentier de paille jusqu'à la maison de la fille. Automatiquement, la paille, l'endemain, se voyait, et les curieux, ils voyaient cette paille-là, ils suivaient même exprès, en disant, tiens, le fiancé, le jeune homme-là, il est fiancé avec la jeune fille-là. La semaine du mariage, ça commençait comme ça. Le jeudi, il faisait, par exemple, préparer le pain, la farine et tout ça, préparer le pain se faisait dans la maison. C'était pas comme le pain qu'il faut maintenant dans la boulangerie ou quoi. Le vendredi, il se préparait la viande. Si tu es, par exemple, ça dépendait le mariage, si tu es un grand mariage, là, il y avait des agneaux, il y avait des petits cochons au lait, il y avait même des génisses, ça dépendait des invités qu'il y avait. Donc, alors, le mariage était le dimanche. Le dimanche, il y avait tous les invités, ils mangeaient le midi, toujours à la maison, et le soir. Le lundi, c'était la même chose. Et si faisait le repas le lundi, le midi et le soir. Tous les invités pareils. Alors, c'est passé comme ça que 8 jours après, s'il faisait encore une autre fête. Le samedi avant de se marier, la famille y envoyait là un panier ou deux du pain, de la viande, des fruits, du vin, du liqueur, à la famille, les parents de la mariée.
Oui, parce que les parents de la fille n'y allaient jamais au mariage. Alors la famille de l'époux y envoyait 4 ou 5 jeunes filles avec tous les corbeilles, comme ils font en Sardaigne, tout plein de choses. Il y avait de la viande, il y avait du vin, il y avait des liqueurs, il y avait
tout.
Il y avait de tout ce qu'il y avait dans le mariage, il envoyait à ses parents d'elle. Et il y avait un coutume que la jeune fille, si par exemple elle se mariait le samedi, le vendredi et le jeudi, il allait à sa cumière. Il s'habillait pas en habit de mariage, mais en très bon habit, il allait chez les oncles, chez les tantes, chez les cousins et cousines. Et s'appelait aller à sa cumière. Et c'était à dire encore, eh bien, samedi, je suis heureuse de vous prévenir que je vais me marier samedi. Si même, il disait des fois à la jeune fille, si j'ai fait des fois une faute, est-ce que vous voulez me pardonner?
C'était un mariage très coûteux, je ne sais pas comme ça passe maintenant, par exemple. Là. Et figurez-vous, comme j'ai dit, là, qu'il faisait le dimanche, le lundi, 8 jours après, que non seulement une fois, mais la viande, elle la faisait 2 fois. Elle la faisait pour le lundi et pour le dimanche la première fois, mais pour le week-end prochain, il tuait encore du bétail, il faisait encore le pain, parce qu'il y avait toujours les mêmes invités. C'était une chose qui s'est
jamais finie. Ça finissait pas.
C'était un frein énorme, et la fatigue. Mais il y avait il y avait beaucoup d'invités, des jeunes filles qui venaient pour travailler à ce moment-là, vous voyez.
Pour les aider. Oui.
Pour les aider, ils faisaient du pain et les hommes les invités pour... parce qu'ils tuaient la viande à la maison. Vous comprenez, il n'y allait pas le boucher à acheter la viande.
Qu'est-ce que j'ai trouvé que c'était pas bien, c'est parce que même malgré les mariages qui avaient 50 personnes, 100 personnes, ils invitaient tous les deux côtés. Mais qu'est-ce qui payait les frais? C'était tout le temps le futur mari. La famille de la femme, il ne payait pas la part des invités de son côté. C'était tout le temps le mari qui payait, tout le temps l'homme qui payait les frais de toute la dépense qu'il faisait au mariage.
Toujours. Les parents, c'est-à-dire le jour du mariage, le jour après, si c'était des riches, là, ils faisaient un cadeau, si vous voulez. Il y avait des bergers là, qui avaient des bétails, on lui donnait par exemple un cheval là, équipé avec la selle et tout ça, avec des sacs là, remplis
de blé, de
provisions, du blé, du fromage, du jambon et des machins comme ça.
Des fois 4 ou 5 francs de fromage, oui. Un grand jambon fumé. Il donnait la part de toute la provision qu'ils avaient dans leur maison.
Et les parents à lui, par exemple, le père, là, c'est, comme je dis, là, c'est, il était un berger, il lui faisait cadeau, par exemple, là, s'il y avait beaucoup de bétail, là, mettons, il lui donnait son brebis à son compte, un cheval, là, un petit bœuf, voilà, pour l'aider,
pour
commencer à s'équiper tout seul.
Maintenant, quel était le rôle des femmes au sein de la famiglia? Écoutons Catherine.
Gli uomini lavoravano, però le donne erano una cosa matriarcale, comandavano più che altro le donne che gli uomini. Mio padre addirittura
les hommes travaillaient, mais c'était surtout les femmes qui commandaient. C'était une sorte de matriarcat. Mon père, comme les autres bergers, était absent du village pendant 4 mois l'hiver pour la transhumance. Et c'est ma mère, donc, qui s'occupait de tout, de l'éducation des enfants et des questions administratives. C'est elle qui gérait le budget et payait les droits de pâture.
Marina Saab est journaliste et professeure d'histoire contemporaine à l'université de Sassari. Marina, pensez-vous que l'on puisse parler de matriarcat, comme vient de le faire Catherine?
Je crois que, comme dans toutes les cultures agro-pastorales des paysans et des bergers, la famille a été la cellule portante de la société. Et il a été une famille patriarcale, très allargée en Sardaigne. Elle comprenait non seulement le père, la mère, les fils ou le neveu, mais aussi les serviteurs, oui, et aussi celui qui cultivait les champs du propriétaire.
Les ouvriers agricoles.
Et les servipastori. On dit chez nous, celui qui faisait les bergères en servant les propriétaires de les brebis. Alors, c'était une famille très vaste et qui était dominée du chef de la famille. Mais la civilisation de la Sardaigne a été surtout pastorale, c'est-à-dire que le chef des brebis, le propriétaire du gregge,
du troupeau,
c'était souvent loin de la maison, loin de la ville, du village, parce qu'il y avait la pastorizia brada. Je crois la transhumance en France, c'est-à-dire que les bergères allaient très loin pendant l'hiver pour chercher la pâture, elles n'étaient pas à la maison. De cette situation économique, et de cette structure économique de la famille, est née en Sardaigne une particulière autorité et dignité de la femme, qui non seulement était la reine de la maison, comme toutes les autres femmes, pour les fils, pour la cuisine comme ça, mais elle était aussi celle qui administrait les biens et celle qui tenait le rapport avec le voisinage, celle qui prenait aussi les décisions plus urgentes, plus nécessaires, parce que son mari ou son homme, il n'était pas là que quelquefois, seulement quelquefois pendant l'année. Alors, je crois que de cette forme particulière d'autorité, qui selon moi a été une autorité de supplance seulement, parce que dans la vie pubblica la femme il n'y était pas comme dans tout le monde, comme dans tous les pays, parce que c'est lui qui commandait dans l'extérieur, dans la vie politique et dans la vie sociale, c'était toujours l'homme, le prêtre, le général, le sindaco,
le maire
du village, comme ça, dans l'amministration des biens. Et dans la maison, la femme était celle qui commandait, et de cette position, elle a sorti un sens de l'indépendance, de la liberté, de la fierté, qui, selon moi, c'est supérieure à celle des autres femmes de la Méditerranée, par exemple in Sicilia ou dans les autres régions du Méridione. La femme sarde, elle par exemple conserve toujours dans les pays son cognome,
son nom de famille.
Son nom de famille. Vous ne trouverez jamais dans les villages la femme avec le nom de la famille de son mari, mais seulement avec son nom de famille. Et dans la bourgeoisie de la ville, par exemple, la femme, comme dans le reste du pays, prendre le nom de son mari. C'est pourquoi on a prétendu qu'en Sardaigne on a eu un matriarcat, mais je ne suis pas d'accord. C'était seulement une supplance que la femme faisait de l'homme et de laquelle elle prenait de l'autorité et aussi de la dignité.
Bona nit.
La forte personnalité de ces femmes trouve une illustration dans les personnages féminins de l'écrivain Grazia Deledda. Maria Giacobbe, vous avez écrit un livre sur Grazia Deledda. Pouvez-vous nous parler d'elle?
Ces livres sont traduits dans presque toutes les langues parce qu'elle a eu un moment de grande célébrité. C'était dans les années 20 et 30 parce qu'en 1926, elle a eu le prix Nobel comme la première femme italienne et en ce moment la seule femme italienne qui a eu le prix Nobel et une des très très peu femmes qui ont eu le prix Nobel en littérature. Et elle n'avait jamais fréquenté d'autres écoles que les premières quatre classes. C'est qu'aujourd'hui on appelle presque un alphabète. Mais elle avait cet énorme besoin de s'exprimer, de raconter des choses, des histoires. Et ces histoires ont été très appréciées à l'étranger et pas beaucoup en Italie. Quand elle a eu le prix en Italie, il y avait presque un scandale. Parce que les gens de lettres en Italie disaient qu'elle écrivait mal. Et sur ce point-là, on peut être d'accord. Elle écrivait un certain italien qui était très marqué par le fait que Grazia Deledda a parlé le sarde pendant 30 ans de sa vie et qu'elle a peut-être pensé en sarde presque toute sa vie. Elle traduisait, et avant c'était vraiment matériellement du sarde en italien avec un dictionnaire. Et après, elle a traduit peut-être ses idées, ses images dans sa tête en italien. Mais elle a vécu ses histoires en sarde. Et de ce côté-là, les gens de lettres italiens avaient raison. Mais elle a créé des histoires très, très passionnées, des femmes très fortes. Les femmes de Grazia Deledda sont toujours des matriarches ou des jeunes et filles très belles et très passionnées et très fortes aussi. Pendant que les hommes sont souvent des bandits très romantiques, mais pas forts moralement. Ils ont un courage physique qui n'est pas pareil au courage moral des femmes qui les attendent, qui les aident, qui les conseillent. Et ça, c'est le monde de Grazia Deledda qui n'est peut-être pas un monde réel, mais c'est le monde qu'elle a créé de ses expériences qu'elle a transformées, comme tout artiste doit faire.
Chez un autre écrivain sarde, Salvatore Satta, auteur du Jour du Jugement, où il évoque la vie des femmes de la bourgeoisie des villes, on trouve une image de la femme extrêmement ambiguë, puisque, paradoxalement, il semble que le grand respect qu'elle inspire la relègue dans une sorte d'inexistence.
La femme n'existe point en Sardaigne. Plus exactement, il n'est pas en Sardaigne de jalousie, il n'y a pas de crime d'honneur, comme on dit. Il n'y existe rien de rien, à l'encontre de ce que l'on voit dans les autres pays du Sud, et d'ailleurs dans bien d'autres coins du monde, la femme n'y suit pas à pied, le mari monté sur sa mule en route vers leur champ. Elle prend place sur la charrette. Et quand ils reviennent par des chemins qui montent et que les bœufs meuglent, la charge étant lourde, c'est elle qui trône toujours sur la charrette, c'est le mari qui en descend et geint plus encore que les bœufs. Une fois à la maison, c'est elle qui la gouverne, c'est elle qui commande aux servantes et aussi bien aux valets, c'est elle qui garde les clés et vend au détail les produits. Chaque maison est une boutique. Tous les poids et mesures sont là, la balance romaine aussi bien que les quarts pour le blé. Toutefois, elle n'apparaît jamais dès lors qu'il y a des visiteurs, s'agit-il même d'un amico de posada, et la raison en est, je l'ai dit, que la femme n'existe pas. Pour les Sardes, ceux de ce temps-là, bien entendu, avant qu'ils deviennent comme à présent de simples locataires de leur île, la femme, l'épouse, n'est que l'objet d'un culte silencieux, exposé aux péripéties de l'existence, et l'instrument même des exigences de la vie, donc de celle du mari et de la famille, mais, d'une certaine manière raréfiée, tout à fait étrangère à ce qui est le domaine de l'homme, c'est-à-dire le gouvernement du petit état familial. Pour ce gouvernement, elle ne pouvait pas, ne devait pas y avoir accès. pas plus qu'une reine n'a à se mêler de la manière dont le roi gouverne. Et il se peut bien que dans cette structure, il y ait tout au fond quelques vagues complexes d'infériorité du mari. Toujours est-il que les choses en allaient tout naturellement de la sorte, ce que le maître fait, répétons-le, était bien fait. Et si, de ce que l'on vient de dire, on déduit que l'épouse était une esclave, eh bien, il faut en conclure que la reine aussi est une esclave. Au surplus, la différence entre reine et esclave est vraiment à peu près imperceptible.
Les pages de ce même livre, Le jour du jugement, résonnent de la voix déchirante des femmes rejetées par la société, voix qui plane sur la ville comme une malédiction.
Se souvient-on de cette Gigia ? Dans sa belle jeunesse, l'amie des coupeurs de bois venus du continent qui l'employait à figurer toute nue à leur banquet fastueux. J'ai également raconté que, vieillie et esselée, elle était tout naturellement devenue la putain de San Pietro. Pure vérité. Les bois détruits, les bûcherons partis, Gigia n'avait plus que cette unique ressource, reprendre publiquement l'existence qui avait été la sienne dans le privé. Toutefois, si auparavant le respect qu'inspiraient ses maîtres rejaillissait sur elle, suscitant même, c'est possible, quelques jalousies, à présent qu'elle était livrée à elle-même, elle devenait la risée de la ville. Il faut dire qu'il est malaisé d'exercer la prostitution à Nuoro sans tomber dans la folie. En effet, à la longue, Gigia avait fini par perdre toute espèce de conscience de son être. Les vieux garçons professionnels du café Tettamanzi, qui pourtant couraient dès l'abord se soulager chez elle, prenant la suite des viveurs continentaux, de la voir par la suite si inconsciente et si égarée dans sa manière d'offrir avec docilité son corps, lui avait collé une devise que tout le monde répétait « Putain de 15 ans et sans malice ». Bien entendu, il ne se doutait guère de la vérité profonde que comportait cette définition. Il s'en divertissait et tout Nuoro de rire avec eux. Les voyous habituels, les gosses même, la poursuivaient en criant ses paroles, mais elle n'y prêtait pas la moindre attention. Vieillissant de plus en plus, couverte de plaies, elle devenait une sorte de spectre affreuse à voir. N'importe, c'était toujours une femme. Et comme elle laissait sa porte constamment ouverte, les ivrognes nocturnes entraient chez elle et l'enfourchaient sans qu'elle sortît de son sommeil. Ceux qui conservaient quelques mémoires laissaient de lire dans le bol posé sur la commode. Or, Gigia, la putain sans malice, logeait dans une espèce d'antre, dépourvue de fenêtres, dépourvue au reste de tout, mais qui avait pour elle une valeur immense. Il l'abritait de la pluie et du vent, lui consentait de s'éprouver vivante, d'être elle-même jusque dans sa misère infinie. Malheureusement, cet antre, comme toute chose en ce bas monde, avait un propriétaire. Et ce propriétaire était un avocat fameux, lequel, quoique largement fortuné, se déclarait socialiste. Mais socialisme ou pas socialisme, dès lors que l'on est propriétaire, on est le maître de sa maison ou de son antre. La personne qui y loge se trouve dans l'obligation de payer son loyer. Gigia n'avait jamais su ce qu'était un loyer. Au reste, elle ne gardait nul souvenir de la manière dont elle avait pu s'installer dans cet antre. Si bien que, recevant un jour une feuille de papier avec toutes sortes de timbres et de cachets, elle la posa sur la commode sans y prêter attention, et d'autant plus qu'elle ne savait pas lire. Arrive par la suite un deuxième papier, puis un troisième, et ils iront rejoindre le premier sur la commode. Au reste, il ne lui venait nullement à l'esprit que l'avocat et propriétaire pût avoir le moindre besoin de son antre. Pour en finir, elle voit se présenter un jour un individu qui brandit un nouveau papier et qu'escorte deux débardeurs, lesquels, sans crier gare, transportent dehors en pleine rue le lit, la commode et les autres misérables hardes de la demeure, ferment la porte avec un cadenas, puis décampent. Et Gigia, sûr et certain, n'avait rien dû comprendre à ce qu'il venait de se passer. Elle s'assied sur le lit et attend tranquillement, car, dehors ou dedans, c'était pareil pour elle. Seulement, au moment où la nuit commence à tomber et où elle voit sa porte toujours fermée, elle se sent cernée par le vide immense du monde et en conçoit quelque terreur. Désespérée, elle s'attaque au cadenas et cherche à l'arracher, Mais il n'y avait rien à faire, c'était encore plus solide que la grande porte de la prison voisine. Elle se jette en pleurant sur son oreiller puant, puis se lève machinalement, et c'est alors, enveloppée dans ses vieilles loques, que va débuter son pèlerinage dans les rues désertes de Nuoro. Sans but, elle descend en ululant par les petites rues de San Pietro, prend par le corso, à présent tout à fait désert, passe devant le café Tetamanzi, où les clients sont rentrés à l'intérieur, car il commence à faire frais. Seul, Giovanni Maria Musiu met le nez dehors, mais reconnaissant Gigia, il éprouve une vague vergogne, car il a été de ses chalands et s'empresse de rentrer. « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait cette nuit ?» gémit-elle. On m'a ruiné, on m'a pris ma maison. Au secours, les carabiniers, me voilà morte. Son cri se heurte aux fenêtres bien fermées et les Nuorais se retournent dans leur lit. Au secours, on m'a tué cette nuit. La lamentation de la pleureuse va peser sur la ville comme une chape de plomb. Au lieu d'errer dans les rues, Gigia ferait mieux de se rendre au cimetière et de creuser de ses mains sa fosse. De toute manière, c'est là qu'elle finirait.
Cara perdona mia e tanto altri vimentosi mi permetti scusa di inviare potente che si spense nelle ore. Custo coro sorrise stimare. Rite che certo su uno so mi sunnende di espropriamente innamorende. Apporezzido e mi costringe se ha una risposta. Non ti gretta schimappas impedito per un amore silloso disposta. Casidana de Gai suggerido, es falsità de faula composta, non di arretta gente che lo è niente, che non so niuno suo amore. Ma non sa chi con uno se si sposa e a sa gente retta non li dare devo che tu esama te si cosa fine come ma manco a viva in sa
Le mari de Rina Pigliaru a fait une transcription du code qui réglementait les rapports entre les habitants de la Barbagia, cette région montagneuse et isolée du centre de la Sardaigne, tout en ignorant complètement les lois italiennes. Rina, pourriez-vous nous dire si le délit d'honneur existe en Sardaigne?
Che il diritto d'onore non è un fatto molto specifico. Né contemplato, semmai è contemplato il delitto della, sulla proprietà.
Ecco. Je dirais que le délit d'honneur n'est pas spécifique à la Sardaigne. Il y a plutôt des atteintes à la propriété, comme le vol de bétail. D'ailleurs, les rares fois où il y a délit d'honneur, cela fait scandale. Les femmes ayant toujours été assez autonomes, les hommes leur font confiance. Et il s'agit vraiment de cas particuliers, en cas de rupture de promesse de mariage, par exemple. On peut recourir à la vendetta. Mais en général, on se réfère plutôt au code de la Barbagia, qui aujourd'hui encore tient lieu de loi, avec ses règles précises, qui n'émanent pas de l'État italien, mais de la communauté des bergers de la région.
Déjà Gramsci, qui était sarde, notait dans une de ses lettres
« Les Sardes, qui passent pour des méridionaux, ne sont point jaloux, comme on le dit des Siciliens ou des Calabrais. Les meurtres par jalousie sont très rares, tandis que sont fréquents les crimes contre les séducteurs des jeunes filles. Les paysans se séparent tranquillement s'ils ne sont pas d'accord avec leurs femmes. La femme infidèle est tout simplement chassée de la maison. Souvent, il arrive que le mari et la femme séparés de fait recommencent leur vie avec une autre femme ou un autre homme du même village. Avant la guerre de 14-18, existait en Sardaigne l'union à l'essai. Le couple se mariait dès la naissance de l'enfant. En cas de stérilité, chacun reprenait sa propre liberté et l'Église tolérait cette démarche.
Perché andavamo in campagna anche 10 e 12, dormivamo da sole di notte. E prima la gente andava a rubare, ci passavano vicini, però facevano il loro dovere, a noi non ci disturbavano. Né noi dovevamo disturbare loro e né loro dovevano disturbare noi. Perché c'era poi la bocca si rimaneva, la dovevamo tenere chiusa. Invece adesso tutti spavaldi, adesso le cose...
Rubare qualche pecora
infatti.
Devi precisare, rubare che vuol dire?
Qualche pecora per sopravvivere, qualche maialetto.
Quand on était jeune fille, on ne connaissait pas la peur. On dormait dehors, en pleine campagne, à 10 ou 12, quelquefois. Et personne ne venait nous importuner. Avant, les hommes qui allaient voler passaient tout près de nous. Mais ils faisaient leur devoir, ils ne nous dérangeaient pas. Pas plus que nous, nous ne les dérangions. Car il fallait tenir sa langue, alors. Pas comme maintenant.
La fin de cette petite anecdote illustre bien la sécurité dans laquelle les femmes vivaient à cette époque. Catherine vient d'évoquer la présence des voleurs, qui ne les dérangeait pas, comme quelque chose de tout à fait ordinaire, tandis que son mari a cru bon de devoir préciser qu'il s'agissait de vol de bétail pour survivre. Encore un exemple de ces usages figurant dans le code de la Barbagia dont on a parlé.
Marina Saba, comment expliquez-vous dans l'histoire de la Sardaigne l'existence de règles de vie suivies par toute la communauté en marge des lois de l'État italien?
Celui qui donnait la loi était toujours un étranger, un italien pour nous. Alors, il y a un proverbe en Sardaigne qui dit « Qui furat venit de su mare, qui vole vient de la mer ». Aussi, la mer a été considérée par les Sardes comme l'élément qui nous sépare du continent et aussi comme l'élément qui nous apporte celui qui vole notre territoire, notre pouvoir, notre richesse. C'est pourquoi la culture de la Sardaigne, c'est une culture agropastorale, c'est-à-dire des bergères et des paysans qui se sont réunis dans l'intérieur de l'île. Et parce que la mer envahissait des étrangers. J'oubliais de dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, on a des incursions de Saracini, des musulmans, des Sarrasins, oui, dans les côtes de l'île. Alors, ce type de civilisation s'est arrêté, a été une culture immobile qui était complètement détaché du dehors, parce que aussi les commerces étaient rares. Et la Sardaigne a été considérée comme une île exotique que le continental venait visiter pour y trouver un goût de l'aventure, de tout ce qui est étranger. Nous avons eu beaucoup de voyageurs célèbres en Sardaigne dans le 19e siècle. Et par exemple, Byron, par exemple, Balzac. Mais la structure économique et sociale aussi de l'île a été, jusqu'à ce siècle, une forme de culture agricole de la campagne. Et les villes étaient tout petite, ou bien le deux principales, Sassari et Cagliari, étaient l'une une ville des études, des étudiants de la bourgeoisie intellectuelle, et l'autre, Cagliari, était un peu plus dédié au commerce. Mais tout le reste de l'île était dépopulé, ou bien populé des paysans et des bergères, surtout des bergères. La richesse était là. Alors, les Piémontesi, lorsqu'ils sont venus en Sardaigne, ont fait des lois pour nous rendre similaires à l'autre partie du continent. Et ils ont voulu faire une propriété parfaite. C'est-à-dire qu'autour du village, en Sardaigne, la propriété était commune. C'était un libre pâture. Et en 1820, le roi de Sardaigne a fait la loi delle chiudende pour fermer les champs, parce qu'il pensait que les champs, que la cultivation apporterait de la richesse dans l'île et ferait naître une bourgeoisie commerciale. Et c'est le même processus qui a eu lieu en Angleterre il y a longtemps. Mais en Sardaigne, ont été les feudataires, les patrons de la terre qui ont fermé les champs. Et alors, les bergères ont dû payer une location, un loyer, pour faire la pâture de ces brebis. C'est comme ça que la situation des bergères a été devenue dramatique. Et c'est là l'origine du banditisme, des bandits qui allaient hors de la loi pour faire des vendettes.
Des vendettas.
Des vendettas, si. Et la vendetta, c'est une exclusive, je crois, de la Sardaigne et aussi de la Corse. C'est un peu dans le caractère du Sard qui n'accepte pas la loi du roi. La justice du roi, on dit, et il était porté à se faire justice de soi-même. Alors, ces bergères qui étaient expropriés de la libre pâture ont pratiqué quelquefois le banditisme. Et il y a une poesia, un petit poème en sarde, qui dit «Tancas serradas a muros». A sa ferra a ferra, si sugelu fiat in terra, la rian serradu buru.
Ce qui veut dire, champs fermés par des petits murs, dérobés à qui mieux, si le ciel était sur la terre, on l'aurait enclos lui aussi.
Tanca serrada sa muro, a sa ferra ferra, si sugelu vid in terra, la via na serra du buru.
Oh, il bimbo,
oh, il bimbo,
oh, il bimbo,
oh,
il bimbo, oh,
il
bimbo,
oh, il bimbo,
oh, il bimbo,
oh,
il bimbo, oh, il bimbo, oh, il bimbo, oh,
il bimbo,
oh, il bimbo,
Rara,
rara,
rara, rara,
rara, rara,
rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, r
Cette résistance des Sardes à ce qui vient de l'extérieur se manifeste-t-elle aussi dans leur attitude religieuse?
La religiosité de la femme sarde, quelquefois, est peut-être, on peut dire, pas chrétienne, pas complètement chrétienne. C'est comme si cette religion qu'on appelle chrétienne ou catholique n'est pas vraiment arrivée. Il y a des rites qu'on suit, mais après ce qu'on croit, c'est très très compliqué, très différent de ce qu'on lit dans les évangiles. Et alors la foi dans la magicienne, et c'est au fond pas tellement différent que la foi qu'on a dans les grands chirurgiens, si on habite à Paris, ou les docteurs fameux. Et ce sont des choses un peu pareilles. Il faut avoir de la foi dans les chirurgiens dans lesquels on se met. Et la même chose, alors il n'avait pas tellement des possibilités de chercher des médecins célèbres. Et il y avait cette femme qui les comprenait et qui connaissait les vieilles choses de la nature qu'on avait tramandées de génération en génération. Elle savait quelle feuille prendre dans les bois, dans la forêt, pour curer certaines maladies. Elle avait aussi, je crois, un sens psychologique, un sens d'observation. Et des symptômes ou des signes, comme on dit aujourd'hui, pour elle étaient lisibles dans une certaine manière. Alors, elle pouvait aussi curer les maladies, mais elle avait une prévoyance qui était peut-être basée sûrement sur son sens d'observation. De certaines choses, elle pouvait déduire que quelque chose plus tard, ça allait passer. Et elle donnait des conseils. Et la plupart des conseils étaient gratuits. C'est-à-dire, elle acceptait des cadeaux. Mais il ne devait pas payer.
Mais qu'en est-il à présent des conditions de vie de la femme en Sardaigne et quelles ont été les principales étapes de son évolution?
On ne doit pas oublier qu'en Italie, nous avons eu pour 20 ans le fascisme qui a été fortement antiféministe, qui a repoussé la femme dans la maison et qui a tranché le mouvement démocratique et aussi le mouvement de libération et d'émancipation de la femme. No? Alors, en ce moment, je crois qu'il y a beaucoup de différences entre la femme du méridion de l'Italie et la femme de Sardaigne. Et nous sommes peut-être un peu plus libres, un peu plus dotés d'autorité qui est un retage de la tradition. Et il y a beaucoup de différences entre les villages et les villes, et entre les classes aussi. Naturellement, la bourgeoisie intellectuelle et les jeunes gens sont émancipés plus que les femmes du pays. Et je crois que, comme dans tous les pays, les femmes sont très présentes dans le social, dans le mouvement féministe, dans le mouvement des étudiants, dans le mouvement, par exemple, de démocratique, de base, on dit chez nous. Mais elles sont scarcement présentes dans les institutions du pouvoir, dans le Parlement, par exemple. Oui, nous avons aussi le président de notre chambre des députés, qui est une femme, mais très peu de femmes ont un pouvoir réel de décision politique. J'ai aussi une expérience personnelle parce que j'étais dans les dernières élections candidat au Sénat. Alors je suis allée faire la campagne électorale dans les villages et mon public était presque tout masculin. Alors j'ai dit un jour, où sont vos femmes? Où sont les femmes? Et un des hommes qui était là a dit, mademoiselle, ma femme est à la maison à faire les dîners. Et les femmes qui font politique en Italie sont très, très peu. Mais, par exemple, tous les jeunes gens sont très décidés à s'occuper, à faire un travail hors de la maison. On a fait des lois pour l'occupation des jeunes en Italie et les listes de ceux qui étaient candidats à l'occupation étaient plus de femmes que des hommes. C'est-à-dire que les jeunes femmes sont très déterminées à n'être plus seulement mères et spose, épouse exemplaire, comme disait le fascisme.
À Orgosolo, dans les années 70, Caterina et son mari ont participé, comme tous les habitants du village, à une lutte gagnante contre l'occupation des terres par une base américaine. C'était la lutte de Pratobello.
Pratobello, dire, è stata una lotta popolare ad Orgosolo, degli uomini, delle donne, dei bambini, dei vecchi. Un po' di tutti, dei sindacalisti, dei democratici, dei preti, di tutti quanti. È stata una battaglia che Orgosolo nel 69 volevano fare un'ennesima base militare, e con la scusa che facevano un poligono di tiro, volevano cacciare via i nostri pastori. Orgosolo se ne è accorta ed è insorta, Orgosolo è con l'appoggio di tutti i democratici sardi.
Pratobello a été une lutte populaire à Orgosolo. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des syndicalistes, des démocrates, des prêtres, un peu tout le monde. C'était en 1969. Pour faire un champ de tir, on voulait chasser de là tous les bergers. Les habitants d'Orgosolo ont réagi et se sont soulevés. Ils ont occupé les terres. Ça a été de dures journées.
E le donne in quell'occasione hanno avuto una parte molto importante perché si hanno preso i figli in braccio, se ne sono andati lì per giorni e giorni, non si sono mosse fino a quando veramente non si è tutto risolto il problema.
E le femmes a ce moment-là ont eu un rôle très important. Elles ont pris les enfants dans leurs bras et elles se sont rendues sur place pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que les militaires s'en aillent. Et les femmes étaient peut-être les plus combatives, étant plus habituées à traiter avec les autorités, ce qui leur a valu de changer de mentalité à pas de géant. Et là, elles ont eu l'occasion de lutter peut-être mieux que les hommes, car l'homme, bien souvent, raisonne par la force et la violence, alors que la femme est habituée à lutter différemment et arrive à être plus constructive.
Procurade che moderate, barone che sa tirannia. Casino, provvida mia, torrate sape in terra. Casino, provvida mia, torrate sape in terra. declarata è già la guerra contro la sabre potenza. E incomincia la vacenza in su populo a mancare. E incomincia la vacenza in su populo a mancare.
Fonni 1983. Nous sommes dans un village du centre de l'île, dans un atelier de tissage où travaillent des femmes.
C'est un travail très dur. Combien d'heures travaillez-vous par jour ?
9 heures par jour.
Et vous gagnez combien ?
200 000 lires, c'est-à-dire environ 1000 francs par mois.
Est-ce difficile pour les femmes d'aujourd'hui de trouver du travail ?
Ah oui. Avant, les filles trouvaient toujours du travail dans les villages. On allait travailler au champ, on travaillait la laine pour faire des vêtements, on coupait le tissu, on gravait le linge, on faisait tout à la maison. Et les femmes fabriquaient aussi des vêtements pour ceux qui ne savaient pas les faire, et là, on les payait. Maintenant, par contre, on ne fait plus ces tissus, on achète les vêtements. Tout fait. On ne va plus travailler dans les champs, juste dans les jardins, mais on ne fait plus de production pour vendre. Tout est importé. Alors le chômage a augmenté de 100%. Et les filles quittent le village et vont travailler dans les hôtels, sur la côte ou sur le continent. Elles émigrent. Ou bien elles restent à la maison. Quelques-unes trouvent du travail dans les villages, dans les ateliers de vannerie, dans les ateliers de tissage ou dans des petites fabriques de biscuits ou de pain.
Carlo Machiavelli, vous habitez Fonni et vous avez une fabrique de pain et de biscuits sardes. Vous n'êtes pas le seul à Fonni à faire des biscuits et du pain. Combien êtes-vous et combien en tout employez-vous de jeunes femmes ?
200 jeunes femmes et nous sommes à 15 qui nous faisons de ces produits-là.
Est-ce que ce sont seulement des jeunes filles ou est-ce que ce sont aussi des femmes mariées qui continuent à travailler après leur mariage ?
Non, c'est que les jeunes filles, les femmes mariées, après leur mariage, ils ne travaillent plus dans les fabriques.
Pourquoi ?
Parce que ici, une fois mariée, ils n'y travaillent plus dans les entreprises ou dans les usines. C'est un usanza, comme je dis.
Elle reste à la maison, donc.
Elle reste à la maison, oui, elle reste à la maison.
Et les femmes qui sont veuves ou qui sont séparées, comment est-ce qu'elles peuvent vivre ?
Ben, ces femmes-là qui sont veuves, qui sont séparées, alors dans ce cas-là, ils vont en aide à d'autres maisons en particulier.
Est-ce que le travail du pain et des biscuits a changé par rapport à autrefois ? Est-ce que c'est un travail plus facile pour les femmes ou est-ce que c'est les mêmes méthodes ?
C'est les mêmes méthodes, mais c'est beaucoup plus facile par les machines qui avant n'existaient pas.
Le chômage des femmes n'a pas seulement augmenté dans les villages. Dans les villes, on retrouve le même problème. Il y a plus de femmes inscrites comme demandeurs d'emploi que d'hommes, ce qui témoigne à la fois de leur désir de travailler et du manque d'emploi. La difficulté de travailler est aggravée pour les femmes mariées par le manque de crèches, d'écoles maternelles et de services sociaux. Beaucoup de filles font donc des études, tout en sachant qu'elles auront beaucoup de mal à trouver du travail sur place. Ces jeunes filles, qui vont souvent étudier en dehors de leur village, sont évidemment beaucoup plus libres qu'auparavant. Il y a donc une sorte de coexistence, pleine de contradictions, mais aussi d'ouverture, entre la vie beaucoup plus libre des jeunes et une tradition encore présente et profondément ressentie. Écoutons encore Carlino Machiavelli, qui est père de 4 filles.
Est-ce que les jeunes filles de Fonni maintenant font des voyages à l'étranger ou en Italie ?
Oui, les jeunes filles aujourd'hui, ils vont à l'étranger, ils vont en France, ils vont en Angleterre, ils vont en Belgique, en Allemagne, ils vont partout où ils font les vacances comme toutes les autres filles des autres pays étrangers. Et ils sont libres d'y aller où ça leur plaît et passer leurs vacances.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiantes à Fonni?
Oui. Oui, il y a beaucoup plus d'étudiantes que d'autres main d'œuvre à faire autre chose. Moi, je dirais qu'à Fonni, le trois quarts vont à l'école.
Qu'est-ce qu'elles font comme études?
Des études professeurs, ils font leurs études avocats, docteurs, etc.
Est-ce qu'elles exerceront plus tard ou est-ce que déjà il y en a qui exercent?
Il y en a pas mal qui exercent déjà, mais il y en a beaucoup qui sont en attente d'avoir une place. Les autres continuent toujours à étudier.
Et vous, Carlino, qui avez passé 18 ans en France, quand viendrez-vous y passer des vacances?
C'est pas sûr cette année, mais l'année prochaine, on viendra certainement en France pour passer notre vacances. Mais à ces conditions que ma femme immigrisse un peu, hein, parce que comme ça, on ne pourra pas y aller à Paris où j'y connais des gens, à Marseille, à Bordeaux, au Lyon. Si elle immigrit un peu, hein, alors dans ce cas-là, il pourra s'habiller comme une Parisienne. Hein.
Mio marito per prendermi in Francia dice che vuole un po' dimagrire, almeno di 20 kg. Puoi tagliarmi i capelli e di togliermi questa gonna lunga.
Pour m'emmener en France, mon mari voudrait que je maigrisse un peu, que je me coupe les cheveux et que je change ma jupe longue. Mais le costume de Fonni est ainsi. Une jupe longue, un châle, des cheveux longs coiffés en chignon.
Ces images de femmes en costume traditionnel disparaissent peu à peu des villages, mais elles sont encore impressionnantes.
Assises sur le seuil de la porte, dans une position très ancienne, par terre, les genoux repliés contre la poitrine ou écartés, avec leurs longues jupes noires qui retombent lourdement, silhouettes noires au visage de pierre, elles évoquent des images préhistoriques venues des profondeurs des millénaires.
Ces changements de mœurs s'accompagnent d'une plus grande liberté sexuelle, vécue plus ou moins bien suivant les cas, comme en témoigne ici Pepina, jeune femme agronome de Nuoro, la plus grande ville du centre de la Sardaigne.
Poi c'è stato un travolgimento di queste situazioni, cioè da una restrizione, da un'educazione molto repressiva, diciamo, dal lato sessuale, eccetera, c'è stata una liberazione eccessiva e non ponderata, nel senso che le ragazze vedono l'émancipation de la donna, la liberté.
Il y a eu un grand bouleversement de ce point de vue-là. On est passé d'une éducation très répressive sur le plan sexuel à une libération excessive. Dans le sens que certaines jeunes filles voient cette libération uniquement dans le domaine sexuel. Pour m'aider à la maison, j'avais une jeune fille de 15 ans, originaire de Baronil, une des régions les plus pauvres de Sardaigne. Quand j'essayais de parler avec elle, moi je suis très libre. Elle me disait que les filles voulaient avoir des rapports sexuels et ne fréquentaient les garçons que pour avoir ces rapports. Bon, je m'étonnais, car je suis pour la liberté sexuelle, mais jusqu'à un certain point. Je lui disais, moi, je sors avec un garçon et je finis par coucher avec lui s'il y a d'autres affinités, pas seulement pour avoir un rapport sexuel. Elle, par contre, me disait que c'était seulement pour ça. D'ailleurs, un jour, j'ai trouvé notée dans son journal intime cette chose qui m'a absolument stupéfaite. Le 18. J'ai eu des rapports sexuels complets numéro 3. Est-ce que ça voulait dire 3 rapports sexuels? Je ne sais pas. Je suis mariée depuis 9 ans, mais franchement, je ne sais pas. Le 19, j'ai eu des rapports sexuels complets 2 fois. Et ainsi de suite. Alors, quand elle est revenue, je lui ai demandé comment il était possible de n'avoir que ça en tête et uniquement dans le but de se marier. Je lui ai dit de vivre sa vie, qu'elle avait bien le temps de se marier. Il s'agit là d'un cas un peu limite. En général, ces changements sont mieux vécus.
Bianca Matera est médecin à Alghero, une petite ville du nord-est de l'île. Bianca, pourriez-vous nous dire de quelle façon les femmes abordent maintenant les problèmes de la maternité, de la contraception et de l'interruption de grossesse?
Abbiamo in teoria delle leggi che avrebbero dovuto risolvere questo problema già da molto tempo, no? Perché
Nous avons théoriquement des lois qui auraient déjà dû résoudre ce problème depuis longtemps. Il y a une loi en Italie qui date de 1975 et sanctionne la création de ce qu'on appelle les consultori, qui sont pratiquement des lieux de gestion de la santé des femmes. Les consultori prévoient en particulier l'éducation sexuelle, la contraception, l'assistance des femmes pendant leur grossesse et après l'accouchement, l'assistance en cas d'interruption de grossesse, enfin toute une série de choses. C'est une loi positive, mais en Sardaigne, elle n'a été appliquée en tant que loi régionale qu'avec 4 ans de retard à partir de 1979. Et en fait, très peu de centres se sont ouverts. La grande nouveauté des consultori est qu'ils devraient avoir une gestion sociale, c'est-à-dire qu'ils devraient être gérés par un pourcentage d'usagers, des femmes donc, et par des représentants de différentes forces politiques et sociales. Cela en théorie. Mais en réalité, ils sont administrés par le personnel médical et par la municipalité. Et la tendance politique de la municipalité se reflète donc sur la gestion de ces centres. Cependant, les femmes qui fréquentent ces consultori sont de plus en plus nombreuses. Au début, seules certaines femmes d'un niveau culturel élevé utilisaient ces consultori et participaient à leur gestion. Maintenant, ça a changé. Les femmes connaissent mieux les lois et leurs droits, et elles viennent plus facilement. Elles savent, par exemple, que l'interruption de grossesse est autorisée en Italie jusqu'à la 12e semaine. Et elles se rendent au consultorio pour une visite, pour se renseigner sur la marche à suivre, etc. En ce qui concerne la contraception, elle est encore mal acceptée. Probablement parce que les moyens contraceptifs sont encore mal connus. Il n'y a pas eu en Sardaigne de grandes campagnes d'information à ce sujet. Le fait de ne pas savoir exactement en quoi consiste la pose d'un stérilet ou le fait de prendre la pilule entraîne une certaine peur ou pour le moins une grande méfiance. S'il n'y a pas de campagne de sensibilisation, les femmes ne sont pas très portées à se lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pourquoi il arrive qu'une femme préfère subir plusieurs interruptions de grossesse plutôt que de les prévenir. Il arrive que, malgré la prescription d'un moyen contraceptif à la suite d'une IVG, cette femme ne les prenne pas et revienne pour une deuxième interruption de grossesse quelques mois plus tard. Le rôle des consultori, qui devrait être principalement la prévention, est donc très mal rempli.
Une étudiante en médecine.
Ma secondo me c'è anche un altro discorso che è alla base di tutto questo, un grande livello di disinformazione che le donne hanno sulla contraccezione e oltre che disinformazione, cioè mancanza assoluta di informazione, c'è anche un'informazione sbagliata, distorta, per quel che riguarda per esempio...
A mon avis, il n'y a pas seulement un grand manque d'information, mais aussi une information erronée et déformée. En ce qui concerne la pilule, par exemple, beaucoup de femmes disent ne pas la prendre parce qu'elles ont peur d'avoir mal au foie, alors qu'elles n'ont absolument rien au foie. Et c'est souvent leur médecin traitant qui leur transmet ces informations fausses, parce qu'ils sont très mal formés eux-mêmes. À l'université, encore maintenant, on ne parle jamais de contraception. Et les femmes sont donc livrées à elles-mêmes, à ce que disent les journaux ou leurs amis. Et en fin de compte, elles préfèrent souvent une interruption de grossesse parce qu'elles savent ce que c'est. Ça a toujours existé. C'est un fait culturel. Leur grand-mère, leur mère l'ont fait, et ainsi de suite. Alors on le fait, sans trop y penser.
Et par rapport à l'accouchement, est-ce qu'on en est toujours à « tu accoucheras dans la douleur » ou est-ce qu'il y a un changement quand même dans la mentalité des médecins et des femmes ?
Beh sì, per la nuova generazione il concetto è un poco differente.
Pour la nouvelle génération, les choses changent. Les femmes connaissent mieux l'accouchement, même s'il n'y a pas de structure pour préparer pratiquement les femmes à l'accouchement prophylactique. Les femmes jeunes veulent s'informer, et elles le font, grâce à des publications qui vont des plus simples aux plus compliquées. Il y a une grande demande de leur part.
Ces changements de mœurs trouvent un écho dans des joutes poétiques, ou gare poétique, qui se déroule publiquement sous la forme d'un dialogue entre deux poètes et traite différents thèmes.
Les thèmes de ces gare sont toujours antithétiques. Il y a par exemple le thème du riche et du pauvre, de l'art et de la nature, de la science et de la religion. Et beaucoup de ces thèmes concernent les femmes. On a des thèmes comme le divorce en Italie, ou bien des thèmes comme le nudisme. On a aussi des thèmes comme la belle-mère et sa bru, ou bien la femme d'autrefois et la femme d'aujourd'hui. Il s'agit pour chaque poète de développer l'image qu'il se fait de la femme. Toutefois, il n'y a pas dans ces gares de vainqueurs ni de vaincus. En fait, il s'agit avant tout d'argumenter, de développer une opinion. Mais personne ne gagne vraiment à la fin de ces concours. Ce qui fait que les images différentes des femmes qu'on a entendues sont conservées toutes à la fois. Et c'est d'ailleurs un peu le portrait de la femme sarde tel qu'il existe dans la vie, c'est-à-dire un syncrétisme de différentes époques, de différentes images de femmes. Le passage d'une gara que nous allons entendre est sur le thème « La femme d'autrefois et la femme d'aujourd'hui ». Chacun des deux poètes va tenir le rôle d'une femme et la définir en s'opposant à l'autre. C'est ainsi que les deux femmes seront comparées du point de vue physique, leurs vêtements, leur coiffure, leur maquillage, du point de vue de leur mentalité, sur le nudisme, la manière de danser, puis sur le thème de la mère et sur le langage.
Del femmina antica soga supra e va la zappo pesante il circa ottant'anno. Del su travaglio amica di esboas e ma la zappo con tu bene se affanno so. Semplicemente stida e mai so e si da passi su con lusso so spanno. Caso lusso in su su e svanita de cosa devi usù.
La femme d'autrefois. Moi, femme d'autrefois, j'ai 80 années sur les épaules et je suis attachée au travail, vêtue toujours simplement. Je ne suis jamais sortie avec des vêtements luxueux, c'est superflu. La femme d'aujourd'hui. Moi, en jeune femme moderne, je sais m'adapter à mon époque. Je m'habille comme une dame, avec un goût parfait. Je suis soignée et non pas sale comme toi, qui n'a pas dû changer tes vêtements de dessous depuis 30 ou 40 ans.
Deo giovane ancora so moderna e civile adeguata custera e voluta vestida che signora con perfetto stile pulita non che tu eruzza e brutta abituata a gai e non ti giamba al mai su e stire chi giù e su e su ta senza pulire vanno so dubito chi se strinta o baranta no.
La femme d'autrefois. Tais-toi donc, gigolette, tu es encore jeunette et pas experte comme moi dans les travaux de la trame et de l'aiguille. Je sais comment assaisonner ma cuisine et tourner les fuseaux, même si je suis vêtue simplement. Et de ma main noueuse, je peux t'apprendre bien des choses dans tous les domaines. La femme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes, vieille ébouriffée grisonnante, que tu m'apprendras à tisser et à coudre avec tes jupes qui t'arrivent aux pieds, on dirait la Befana. Il y a de quoi se sauver en te voyant.
Finalement, Marina Saba et Maria Giacobbe, qu'est-ce qui a le plus changé, d'après vous, dans la vie des femmes en Sardaigne depuis les années 50?
Dans la vie des femmes, tout a changé presque. Et il y a eu le facteur 68 qui a joué un grand rôle aussi en Sardaigne. Et parce que ça a commencé en Italie, la lutte féministe qui a aussi eu des répercussions en Sardaigne. Pas seulement parce que les femmes ont compris un peu plus de leurs droits. La femme sarde n'était pas résignée, même pas avant. Mais dès que beaucoup de femmes sardes, en tout cas, sont intelligentes, elles ont compris que de nouveaux temps étaient commencés. Et maintenant, on accepte, on est très ouverte aux choses nouvelles. On est ouverte aussi à des nouvelles habitudes. Par exemple, avant, la morale sexuelle était très, très sévère. Surtout pour les femmes, évidemment, mais aussi pour les hommes, mais surtout pour les femmes. Et maintenant, on accepte des choses qu'avant étaient scandaleuses. Par exemple, des filles, des familles bien qui vivent sans se marier avec des garçons. Et la famille, maintenant, accepte ça. Ou bien, si on va dans une plage, aujourd'hui, on peut voir côté à côté la vieille femme noire assise en regardant la mer et côté à côté des jeunes tout nus qui jouent, qui prennent le soleil en liberté. Et personne ne pense qu'il y a du scandale dans ça. Et ça, c'est un changement. Et quand à l'évolution dans la vie familière, ça, je n'ai presque rien à dire, parce qu'avant, la femme, ça, était, et, au fond, très libre. Dans la famille, c'était l'autorité de la femme qui comptait. Et aujourd'hui, aussi en partie, mais dès que la femme sarde, comme la femme européenne en général, travaille aujourd'hui, alors ce qu'elle a gagné en liberté économique, elle a perdu en liberté personnelle, dans le sens que son temps est plus et moins son temps. Et elle a moins du temps à passer avec ses enfants, comme toutes les femmes qui ont trouvé du travail dehors. Et ça, c'est les mauvais côtés de quelque chose de très bien.
Et à votre avis, Marina Saab?
Je crois qu'une autre révolution qui a été en Italie, et je crois dans tous les pays, mais aussi en Sardaigne, a été une révolution dans le rapport entre les sexes. Chez nous, la femme, surtout la jeune femme, est assez libre. Elle a des rapports avant le mariage. Elle fréquente les institutions qui de planning de la famille. Et nous avons fait aussi en 1978 une loi de l'avortement qui a été reconfirmée par un référendum l'année dernière avec une votation positive qui a vu les femmes du Méridion aussi, du Sud aussi, qui ont voté en faveur de cette loi qui permet l'interruption de la maternité et qui est pour la diffusion de anticonceptionnels. Et aussi, par exemple, le mouvement du féminisme ont eu quelques chances en Sardaigne, chez nous. Et chez nous, par exemple, peut diffuser la violence sexuelle, mais elle est un délit très condamné par la société. Et nous avons eu deux procès l'année dernière à Nuoro, qui est un centre de la Sardaigne et de l'intérieur. Et les coupables ont été punis très sévèrement. Et chez nous, c'est le réa de viol qu'exercé, on peut dire, plus sur les étrangères che vers les femmes de proprio village o de proprio région. Et je crois que ça dépend du fait que la femme en Sardaigne est assez respectée et moins objetisée que la femme en général, parce que certainement le viol c'est rapporté à la condition d'infériorité générale que la donne a dû subir pendant les siècles. Nous sommes en train de faire aujourd'hui dans notre Parlement une nouvelle loi contre le viol, parce que notre code pénal c'est assez vieux. Et nous avons l'exemple de la France qui a fait cette loi dans 1980. Et je vais conclure avec une notation positive. Il y a un changement que j'ai rencontré en exerçant ma profession d'enseignant dans le magistère et qui m'a été confirmé par des sociologues. Dans le passé, la femme était moins alphabétisée que l'homme. Dans la Sardaigne, à la fin du siècle dernier, on avait 90%,
90%
de femmes qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, la tendance s'est invertie parce que dans la civilisation de Bergère, qui est très important pour l'économie aujourd'hui, pour notre économie, il n'y a plus les servipastori, il y a les bergères qui sont propriétaires de petits
troupeaux.
Alors, il succède souvent que ces propriétaires de troupeaux envoient les jeunes filles aux études supérieures dans la ville. Non? Et au contraire, ses frères s'occupent des brebis. Ils vont continuer les métiers du père. Et aussi à la femme. La civilisation de l'intérieur de la Sardaigne a consegné son espoir d'avancement social et aussi de promotion de la culture. Et il y a dans l'université aujourd'hui plus de jeunes filles que de jeunes gens qui font les études.
C'était la matinée des autres, aujourd'hui Femmes de Sardaigne, par Diane Secchi et Maria Manca.
Tian interrare do tu in tu paule fala na passizzare do ti in tu paule su gorome u etto notti can interrare.
Avec la participation des femmes de Sardaigne, Caterina, Pepina, Anna, Bianca, de Maria Giacobbe, Marina Sabba, Rina Pigliaru e de Carlino e Pasquale. Avec les voix de Michel Simonet, Annie Monnier et François Marié. Mixage, Claude Massé, Daniel Mine et Jean-Paul Herbert. Assistante Anne-Marie Chapoulier, réalisation Arlette Dave.
Sono da tutta guida via mal de amore in su goroma posto bro un'eterna vita. Ai bro.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 février 1984. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.